Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici R. Dubois pour l'interview, émission que vous pouvez écouter en podcast sur notre site internet www.rdwa.fr ou alors sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Hugues Rennes. Bonjour.
Bonjour.
Hugues Rennes, vous êtes médecin.
Voilà, c'est ça, gynécologue obstétricien.
Et vous êtes ici pour nous présenter tout un cycle de rendez-vous à prendre avec des séjours d'enquête, par exemple.
Voilà.
Et aussi, on passera à une projection de film qui aura lieu aux soirées de l'aube à Piégrosse-Laclastre. C'est ça ?
C'est ça, oui. En fait, en dehors d'être gynécologue obstétricien, depuis maintenant 2010, je m'occupe de ce centre de l'aube où on fait différents types de stages dans l'axe principal de favoriser le meilleur de l'homme. Voilà, donc il y a des stages qu'on organise nous, puis des stages qu'on reçoit chez nous.
Qu'est-ce qui vous a amené à venir vous installer dans le Diwa pour pratiquer votre savoir ?
Alors c'est tout à fait par hasard, parce qu'en fait il y a maintenant, donc en 2008-2009, ça faisait déjà longtemps que j'animais des stages et je cherchais un lieu, je voulais acheter un lieu, donc j'avais mis ma maison en vente et puis on avait un peu de mal à trouver. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui me dit, mais tu sais, il y a à côté de Cré, il y a un centre qui est peut-être en train d'évoluer, il faudrait que tu ailles voir. Et donc, je suis allé, j'ai rencontré Mary Evely qui s'occupait de ce centre, qui est une dame magnifique, mais qui commençait à avoir un peu d'âge et qui avait du mal à gérer ce centre. Et donc voilà, on a discuté, on s'est bien entendu, et finalement, elle m'a donné son enfant, parce que c'est exactement de ça dont il s'agit, c'est une passation. Je ne considère pas que c'est une possession, mais une passation, une transmission de quelque chose qui était déjà tourné vers le meilleur de l'homme et qui, j'espère, continue du mieux que je peux dans cette direction.
Ça s'appelle le centre de l'aube. Le centre de l'aube, à l'initial, était voué à quoi ?
Alors, si vous voulez, au début, en 1980, ce sont des gens qui sont très près de quelqu'un qui s'appelle Louis Evely. Et c'est un monsieur qui a fait beaucoup de conférences en France, en Europe, un peu partout, et qui est très connu. Ils veulent à tout prix venir s'approcher de lui. Et lui, il a comme déjà un certain âge, il a pris du recul. Et puis, il leur dit finalement, écoutez, je vous laisse un bout du terrain chez moi. Et puis, si vous voulez, construisez quelque chose. Et en fait, les gens ont construit avec leurs propres deniers, avec leur force, avec leur argent. Et ce centre, donc, il a été fait sur une très belle énergie. Et donc, on accueillait, à l'époque, ils accueillaient des stages de gens qui étaient assez connus. Donc, les stages, les conférences, tout ça, c'était à l'époque très, très développé. Vous savez, maintenant, ça a beaucoup évolué. Ça ne fonctionne plus du tout de la même façon. Et donc, ils accueillaient un peu des têtes d'affiche dans le monde de la vie intérieure, de l'évolution personnelle, etc. Et ça marchait fort bien, ma foi.
Et ce centre de l'aube est destiné à tous les publics, je pense.
Tous les publics, oui. C'est-à-dire que moi, donc, en tant que gynécologue obstétricien, je fais de la formation professionnelle avec une association particulière qui s'appelle SF2M, bref. Et puis, on fait des choses tout public, tout à fait, ouvert à tous les gens, à tous les chercheurs, qui veulent évoluer, qui veulent se comprendre. Donc, moi, à titre de ce que je propose, moi, je fais des choses sur la sexualité, sur le désir d'enfant, sur la parentalité, sur l'accompagnement de la grossesse, de l'accouchement, avec des sages-femmes d'ailleurs, entre autres. Je fais aussi des choses sur l'évolution de la vie, sur la phylogénèse. Voilà. Et puis, j'ai ces jours enquête qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Donc, je fais des choses assez diverses, oui.
Très bien. Eh bien, nous allons aborder donc ces séjours enquête, donc qui s'adressent à tous les publics, je suppose.
Absolument à tous les publics.
Ces séjours enquête, comment fonctionnent-ils ?
Alors, si vous voulez, moi j'ai une particularité en tant que médecin, c'est que je me suis très tôt intéressé à la vie psychique, à la vie intérieure, pour une raison toute simple, c'est que ma mère était professeure de philosophie, passionnée de psychanalyse, donc je l'ai toute mon enfance, j'ai vu parler de la vie psychique, etc. Et dans l'exercice de ma profession, j'ai trouvé un moment que cette approche que nous faisions en médical très technique, il lui manquait une dimension. Et donc c'est pour ça que j'ai ramené petit à petit, j'ai amené cette dimension dans tout ce que je développe. Donc, dans les enquêtes, en fait, je me suis rendu compte que la connaissance qu'on a de soi, souvent, elle manque un peu de concret pour avoir une application pratique. Et donc, à travers tout ce que j'ai pu apprendre dans différentes situations de compréhension de la vie intérieure, j'ai mis un peu au point cette enquête qui finalement part d'un fait très simple. C'est que nous avons des comportements répétitifs, des choses qui nous font souffrir et qu'on refait toujours de la même façon. Et il y a un moment où on se dit, ça n'arrive qu'à moi, cette chose-là. Il n'y a que moi qui me retrouve toujours dans ces mêmes situations. Il faudrait que je comprenne comment je me retrouve dans ces situations. Et donc l'enquête, c'est comprendre l'origine d'un certain nombre de faits extérieurs ou de même de maladies parfois ou de comportements qui nous font souffrir et qu'on voit se répéter au fil du temps et on voudrait bien... On voudrait que ça s'arrête, ce qui n'est pas tout à fait ce qui va arriver. Ça ne va pas s'arrêter. On va d'abord comprendre et après, on ne sera plus esclave de ses comportements. Et ça s'appuie sur un fait qui, pour moi, est très simple et que je développe souvent. C'est que les humains, tous les humains que nous sommes ont une particularité. C'est que nous lisons le monde pas tel qu'il est, mais traduit à partir de notre propre histoire. C'est-à-dire que nous ne voyons pas l'instant présent tel qu'il est, mais... j'allais dire, déformé par notre propre histoire. Donc ça, on pourra, si vous voulez, développer un petit peu. Et donc l'idée, c'est, alors, de quelle façon nous déformons la réalité et comment nous pourrions passer de cette déformation à une réalité, à quelque chose qui correspond plus à la réalité. C'est l'histoire de la Madeleine de Proust, où l'odeur de la Madeleine lui rappelle sa grand-mère, mais ce n'est pas la Madeleine qui est en cause, c'est l'amour de sa grand-mère. C'est l'histoire que j'aime bien raconter du tube de l'été des 20 ans. Le tube de l'été des 20 ans, si on écoute ce tube, il fait remonter l'ambiance des 20 ans. Et ce n'est pas le tube qu'on écoute vraiment, c'est le bonheur qu'on avait à 20 ans ou les grands désespoirs d'amour, ça va dépendre. Donc toute notre perception en fait, humaine est liée à notre passé qui vient interférer sans arrêt dessus et qui fait que c'est comme ça que nous ne sommes pas d'accord les uns entre nous, parce que chacun a un passé différent, bien évidemment, et chacun croit dur comme fer que sa perception est la bonne et que les autres n'ont pas la bonne perception. Alors qu'en fait, la perception, elle est au-delà de la perception de chacun. Elle est dans un dépassement de sa propre histoire qui se fait rencontrer la chose telle qu'elle est.
Alors, est-ce que vous abordez la psychanalyse dans ce travail ?
Alors, non, moi je ne fais pas de psychanalyse. Bon, j'ai suivi d'abord une psychanalyse freudienne pendant de longues années, avant d'autres choses. Mais donc, moi je ne propose pas une psychanalise quelle qu'elle soit. D'abord, je n'ai pas les compétences. Par contre, il y a des psychanalystes corporels qui viennent à l'aube, pour ceux que ça intéresse. Mais ça, ce n'est pas moi qui le propose. Mais on accueille des activités extérieures et on accueille en particulier des gens qui font de la psychanalyse corporelle, qui est une psychanalyse qui ne passe pas par les associations verbales, mais qui passe plutôt par le corps. Donc en particulier, c'est là où vous avez tout à fait raison de parler de ça, c'est que ça touche justement cette mémoire dont on parlait, cette mémoire psychosensorielle corporelle qui va puiser dans notre passé des événements douloureux. C'est ce que fait la psychanalyse corporelle de façon très précise, bien évidemment.
Et la psychanalyse corporelle, comme vous l'appelez, c'est une résurgence de la psychanalyse tout court, une adaptation de quelle science
Ça s'appuie sur les mêmes principes, ça s'appuie exactement sur les mêmes principes, mais ça fonctionne non pas par association verbale, comme on le fait quand on se couche sur le divan. Le contrat, c'est dites tout ce qui vous passe par la tête en sachant que dans tout ce qui nous passe, il y a des choses qui vont tout d'un coup apparaître et manifester un petit peu l'être dans une partie plus centrale. En psychanalyse corporelle, on passe plus par le corps, c'est-à-dire que notre corps porte notre histoire. Et quand il faut bien sûr être d'accord pour faire ce travail, mais quand le psychanalyste va solliciter peut-être un certain nombre de zones du corps, tout à fait banales, en mettant la main par exemple, eh bien tout d'un coup ça va réveiller quelque chose du passé, comme la musique du tube de l'été réveille, certaines zones du corps sensibles peuvent réveiller un passé douloureux. Et donc c'est comme ça que ce passé va apparaître à la conscience, et donc on va voir apparaître un certain nombre d'événements très importants de notre passé qu'on appelle les traumatismes et qui expliquent notre comportement présent.
Alors, entre ces deux types de psychanalyse, celle verbale et l'autre physique, celle physique est certainement plus proche d'une réalité et peut-être, comment dire, indéniable plutôt qu'une psychanalyse verbale où la personne peut se retrancher derrière un mutisme toujours.
Oui, alors moi, j'aime pas bien faire les comparaisons et donner des... Il n'y a pas mieux, moins bien, ce sont des choses différentes qui touchent. Moi, je sais que j'ai vraiment eu besoin de passer par la psychanalyse freudienne parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a deux secondes, on peut se réfugier dans un mutisme. Et moi, j'étais plutôt dans le mutisme. Ça apparaît peut-être pas maintenant. Et donc, il a fallu que je m'apprivoise à parler devant une personne. Et puis aussi, je veux revenir sur ce que je disais sur la psychanalyse corporelle. Il y a aussi une verbalisation à un moment dans la psychanalyse corporelle. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la séance se termine et on va, à ce moment-là, verbaliser ce qu'on a vécu. Voilà. Mais moi, je vous dis, encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste. Il y a des gens qui pourraient en parler sûrement bien mieux que moi.
Alors nous allons revenir sur ces enquêtes qui se déroulent sur toute la durée de l'année, hein, jusqu'à l'été prochain, depuis début octobre. Donc ce sont des rendez-vous qui ont lieu en week-end, je suppose ?
Alors pas forcément, il y en a en week-end, il y en a en semaine, on peut venir un jour, deux jours, trois jours, bon, nos séjours durent trois jours, on peut venir, revenir, on fait comme on veut, l'important c'est que l'être ait envie de se comprendre et c'est qu'il, voilà, et qu'il joue le jeu, donc on va petit à petit, la personne va essayer de rentrer dans cette enquête, qui va essayer de comprendre un certain type de comportement, et j'appelle ça enquête parce qu'en fait on prend des indices. Et il y a des indices, c'est d'abord, il y a des gens qui savent déjà un certain nombre de choses sur eux-mêmes. Et c'est déjà admirable de déjà s'appuyer sur ce qu'on sait déjà. Et puis, il y a d'autres choses qui vont venir, c'est les événements quotidiens qui vont comme faire un écho dans le présent, dans un échantillon quelconque de vie, avec cette douleur centrale qu'on essaye de comprendre. Et donc, les événements de la vie quotidienne qui vont venir en écho, on va essayer de vraiment s'en servir, essayer de voir ce qui se passe, de comprendre comment l'être pense, comment il se perçoit, etc., à travers cet échantillon. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui vont venir, c'est les rêves. Et donc, on va, dans cette période, aussi beaucoup s'appuyer sur les rêves, parce que quand un être met son esprit comme ça dans une recherche, tout va essayer de lui parler, et donc on essaye vraiment d'utiliser les rêves aussi.
Est-ce que ce lieu se prête, le centre de l'Aube, se prête très bien à cette activité ? Est-ce que, par exemple, ces ateliers pourraient se faire dans une grande ville ?
Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que...
En parlant du quotidien, oui, qui vous affronte quotidien ou tous les jours.
Voilà. Hein. Alors si vous voulez, il faut... Le problème actuellement, c'est que... Enfin, le problème classique, c'est qu'on a un peu du mal à être en même temps présent à la vie extérieure et à la vie intérieure. C'est-à-dire que quand on veut faire un travail, n'importe quel type de travail sur la vie intérieure, il faut toujours un certain recul. Et de ce point de vue-là, l'Aube, qui est dans un lieu de silence et de paix et de beauté, d'ailleurs, de la nature, puisque la Drôme est quand même magnifique, ça se prête beaucoup. Et les petits échantillons de la vie quotidienne suffisent, même si on n'est pas tout à fait dans la vie quotidienne, au sens où les gens ne sont pas chez eux, ils sont... voilà. Mais le fait de débarrasser la table, le fait de ranger, de faire ci, de faire ça, fait monter... parce qu'on est hypersensible, des petites douleurs, des petites gênes, et qui vont en écho, comme je disais, à cette enquête qui correspond, elle, à une douleur plus chronique, plus constante. Voilà, donc on pourrait le faire aussi en ville, c'est une évidence, mais je pense que là, les conditions, on baigne dedans, si vous voulez, on baigne dedans, sans retourner dans sa vie quotidienne, toute la journée, à son rythme, hein, y a pas de... on essaye d'enquêter, puis on se fait des pauses, on se repose, et puis voilà, puis le soir, on essaye de trouver une nouvelle piste pour faire avancer cette enquête.
Vous disiez tout à l'heure que le rêve était abordé hein, dans ces oui. enquêtes. Est-ce que le fait de participer à ces ateliers éveille le rêve ?
Oui, tout à fait. Je pense que ce qui se passe dans notre journée va agir sur nos rêves. Et là, mettre l'être en questionnement par rapport à une question fondamentale qui l'habite, ça va activer les rêves. Et je suis absolument frappé de voir à quel point les personnes qui viennent et qui pensent que soit elles ne rêvent pas, soit elles ont des rêves inintéressants, quand elles commencent, quand je les pousse un peu et qu'elles retrouvent leurs rêves, de voir à quel point le rêve leur parle profondément, répond à leurs interrogations en grande partie. Et donc le rêve est très précieux. Mais ce que je voudrais dire par rapport au rêve, c'est que pour moi, ce n'est pas une interprétation des rêves. Le rêve, pour moi, c'est mon sentiment, hein. Je ne prétends pas que c'est la vérité, mais c'est la mienne. Le rêve ne s'interprète pas, il y a un message. Et le message, c'est comme une lettre que vous recevez, vous ouvrez la lettre et c'est écrit, quelque chose est écrit dessus, et vous ne pouvez pas changer ce qui est écrit. Dans le rêve, c'est un petit peu pareil. Il y a des images qui vont faire des sentiments, et c'est ces sentiments qui éveillent l'image qui compte. Et le sentiment, il est très précis. Donc il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas à mettre de l'intelligence là-dedans. On met l'être en contact avec son rêve et on le laisse prendre contact, et quand il est en contact, il sait ce que dit le rêve.
Alors, combien de personnes accueillez-vous lors de ces séjours enquête ?
Alors écoutez, bon, on ne vise pas le nombre, hein, c'est-à-dire que comme c'est des choses intimes et que de toute façon, moi je ne peux pas répondre à plus de 10-12 questions le soir, parce que ça va faire trop long après, les gens vont trouver ça trop long. Donc ça veut dire que voilà, il y a 10 personnes plus 3-4 animateurs plus moi, ça fait qu'on est une quinzaine quoi en gros. Et c'est largement suffisant et pour qu'on s'occupe bien des gens qui sont là.
Donc il est souhaitable de réserver. Hein.
Voilà, on peut s'inscrire, on peut réserver, il n'y a pas de souci. Donc il y a de nombreuses dates, ce qui fait que les gens peuvent trouver ce qu'il en faut.
Voilà, nous donnerons les coordonnées en fin d'émission.
Je vous remercie. Oui,
très bien.
Merci.
Et puis, on ne va pas énumérer le calendrier parce qu'il est quand même très long, mais globalement, on peut estimer qu'il y a 2 ateliers par mois.
C'est ça, oui. Il y a deux fois 3 jours par mois, globalement, tout à fait.
On va passer au jeudi 24 novembre, soirée organisée par les Soirées de l'Aube.
Voilà, oui, mais c'est-à-dire qu'on avait eu un petit blanc là, mais normalement on fait une soirée de l'Aube tous les 2-3 mois, donc on en fait 2-3 par an avec projection de films ou faire venir un intervenant, etc. Et là, cette fois en effet, on a une soirée sur un film.
Alors ce film, vous allez, je le cite, hein, ça s'appelle « Vers une spiritualité de la paix ».
Voilà, oui. Donc c'est, en fait, c'est une personne qui habite Piégros, Patrick Viron et Catherine Miachon, c'est un couple. Et en fait, ils ont fait un film que peut-être certains connaissent qui s'appelle « De paysage en paysage » sur la région de la Drôme et sur l'agriculture, etc. Et puis ils ont rencontré un jour donc, le Cheikh Ben Tounes, qui est donc un soufi et qui fait des très belles actions pour la paix dans le monde, etc. Et donc ils ont eu envie de faire un film pour montrer une spiritualité très ouverte, contrairement à ce qu'on peut penser quelquefois, où on pense que c'est un peu des maisons fermées, quelque chose d'extrêmement ouvert, d'extrêmement accueillant, avec des très belles manifestations qu'il organise régulièrement par an. Et donc voilà, ils ont voulu faire le portrait de cet homme et de ce qu'il présente, et donc ça fait un très beau film que j'ai vu, et j'ai eu envie de le partager, et de le faire partager à d'autres. C'est pour ça qu'on l'a mis au programme des Soirées de l'Aube.
C'est un film qui s'applique tout à fait au centre de l'Aube, parce que c'est une recherche de paix.
Tout à fait, voilà, exactement. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui incite au meilleur de l'homme nous intéresse, quelle que soit la route prise. Et je pense que ce film et le Cheikh Ben Tounes vraiment œuvre pour la paix à sa façon, de façon très ouverte et absolument pas fermée. Et moi, ça m'intéresse, ça, et puis d'autres choses aussi. Tout ce qui œuvre dans cette direction me va bien.
Globalement, le public qui vient vers vous recherche quoi ou est en demande de quoi ?
Je crois que l'intérêt de la vallée de la Drôme et puis d'autres endroits, c'est qu'on se pose des questions, on cherche, on ne reste pas sur des acquis, on a des certitudes, mais en même temps, on aime bien un peu les remettre en cause, chercher de nouvelles solutions. Et donc, je crois qu'on... Tous les gens peuvent être intéressés par ce type de soirée. Et en fait, on draine, j'allais dire... Bon, un peu de Valence, mais ça commence à faire loin, mais on draine tous les gens de la vallée. Mais on va essayer d'ouvrir un peu plus large, parce que ce film est vraiment intéressant, donc on est en train de s'occuper de le faire connaître un peu plus loin que ça.
On peut peut-être citer un peu plus, je ne sais pas si vous la connaissez, cette personne, donc le chef Khaled Ben Tounes.
Écoutez, oui, je le connais. Je ne peux pas dire que je le connaisse bien, ce serait faux, mais je l'ai rencontré, j'ai discuté une fois ou deux avec lui, je l'ai croisé, et puis j'ai vu ce film, surtout. Et voilà, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un être qui est, je trouve, très attachant parce qu'il n'a aucune prétention, il ne se présente pas comme quelqu'un qui aurait, j'allais dire, reçu un don. Il dit qu'au contraire, même quand on lui a demandé de prendre la suite de son père chez les soufis, donc il s'est dit, mais ça me va pas du tout, ça n'a rien à voir avec moi. Et il a beaucoup hésité. Et puis finalement, il s'est dit, si on me le confie, c'est qu'il faut que je le fasse. Et donc, il a vraiment choisi d'être le Shir Ben Tounes, donc de prendre la suite de son père dans chez les soufis Aïza, donc de l'ONG Aïza. Et voilà. Et moi, j'ai trouvé que cet homme, en même temps, avait beaucoup d'humilité, en même temps, très actif. Donc, il essaye de promouvoir... La journée du bien vivre ensemble auprès de l'ONU, donc c'est quelque chose qui est en train de se discuter. Donc voilà, il essaie d'avoir des actions qui concernent toute l'humanité, pas simplement les soufis.
Est-ce qu'on peut on aurait pu nommer ce film Vers la paix, tout court?
Peut-être bien, oui, tout à fait. Bah, écoutez, je le proposerai au réalisateur, mais on aurait pu, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'aborder la paix, peut-être, je ne sais pas, il me semble, et que là, c'est vrai que c'est un chemin spirituel, donc c'est peut-être aussi plus précis pour ceux qui viennent. C'est plus clair et plus, voilà, plus transparent par rapport au public qui va venir.
Vous pensez actuellement qu'il y a un gros besoin de paix ou d'envie de paix parmi la population ou les gens que vous croisez?
Alors, je crois qu'il y a nombreux, je dirais que peut-être pas, mais qui a un vrai désir de paix, je pense. Alors, ça me permet de parler d'autre chose, c'est que le hasard de la vie m'a mis en contact avec la Colombie. Donc, la Colombie, pour parler de la paix, ils sont en train d'essayer de faire la paix avec les FARC. Je pense que c'est quelque chose qu'on sait. Et c'est pas si simple que ça, parce qu'ils ont été extrêmement... ça a été extrêmement brutal, violent, ce qu'ils ont vécu. Il y avait des personnes en scooter qui circulaient avec des mitraillettes et qui tuaient les gens sur les trottoirs. Donc ça a été assez horrible. Et il y a un vrai mouvement pour la paix. Et il se trouve que le hasard des choses a fait que je suis mêlé à cette histoire-là, puisque je suis allé en octobre en Colombie pour faire des conférences, tout un séminaire sur la grossesse et comment profiter de la grossesse, de la parentalité, pour faire la paix avec soi et puis être la génération de la paix des enfants qui viennent. Et donc, ils m'ont demandé de revenir en avril pour s'occuper de 500 familles, de former 50 référents, plus 10 super référents. Et donc, si vous voulez, je trouve que là, vraiment, il y a une belle énergie pour la paix. Alors, je parle de la Colombie parce qu'il se trouve que c'est ce qu'on m'a proposé récemment. Mais je pense que ce n'est pas que la Colombie. Il y a vraiment un désir de paix chez les humains. Vous voyez, il y a un truc qui m'a beaucoup frappé, si je peux me permettre, c'est tous ces attentats qu'il y a eu. Hein. Bon, c'est vrai que ça, par réaction, on pourrait être tous violents, mais il y a beaucoup de gens qui disent non, on ne va pas répondre par la violence. Je pense que le principe de Gandhi, ne répondez non pas à la violence par la violence, il y a quelque chose qui est en train de faire sa route, même s'il y a des groupes qui sont violents, je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence, mais il y a quand même un mouvement de gens qui disent nous ne répondrons pas par la violence à la violence. Nous ne voulons pas cette piste-là. Et je trouve que ça, c'est, même si ce n'est pas le plus fréquent, c'est très porteur d'espoir, je trouve.
Justement, vous parlez de ça. Est-ce que les régimes, est-ce que les réseaux sociaux sur Internet sont des exutoires de toutes ces rancœurs ou de ces nausées?
Bah oui, mais il y a les deux. C'est-à-dire, il y a exactement ce que vous dites. Oui, il y a un exutoire où là, on se lâche et on peut dire tout et n'importe quoi et on tombe dans le plus bas de l'humain. Alors, c'est évident que je ne les connais pas parce que je ne vais pas dessus du tout. Mais à côté de ça, il y a des belles choses aussi avec l'autre côté. Donc, je crois que nous sommes tous devant des choix. C'est-à-dire que nous choisissons un monde ou l'autre. Nous choisissons de répondre par la violence à la violence, ou nous répondons par la non-violence, par la paix. Mais je crois que nous sommes devant des choix individuels et qui va faire deux grandes tendances. Et voilà, et chacun se déterminera en fonction de ça.
Alors comment ça se passe un séjour dans les ateliers
Alors,
en fait, séjour enquête.
Voilà, donc en principe, les gens arrivent donc le premier jour et moi je les reçois donc à 9h, on a un rendez-vous à 9h, et je vais développer un aspect de cette enquête en fonction des personnes que j'ai, en fonction de ce qui m'habite, en fonction de ce que j'aperçois qui peut les aider. Et donc je vais développer un aspect de cette enquête en leur expliquant comment ça marche. Et puis, ceux qui en ont déjà fait vont peut-être faire le point en me disant, ben voilà, j'en suis là et que je peux essayer de les aiguiller pour la suite de l'enquête, par exemple. Ensuite, ils vont être c'est libre, hein, y a pas, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, on leur propose ça. Et donc ensuite, ils vont être par petits groupes avec des gens qui ont l'habitude de faire des enquêtes avec moi depuis déjà assez longtemps. Et donc, ces personnes vont les aider à avancer en leur posant des questions pour essayer d'avancer, pour leur proposer des pistes de réflexion. Le but étant que l'enquête se fasse non pas depuis l'intelligence, mais depuis le cœur. Et ça, c'est pas si simple. C'est-à-dire que si on essaie de mettre de l'intelligence, de la compréhension, ça marche pas. Il faut retrouver la souffrance et finalement, à travers la souffrance présente, la souffrance de l'enfant qui a souffert en nous pour rencontrer cette souffrance. Donc voilà, donc il y aura une période pendant la matinée où l'enquête va avancer par des petits groupes, d'interactions de petits groupes. Et puis moi, à midi, je mange avec eux et s'ils ont des questions à me poser sur leur enquête, je leur réponds. Ensuite, l'après-midi, bonne sieste parce qu'il faut savoir se reposer, se détendre, aller marcher, faire voilà. Et puis de nouveau, on leur propose de se remettre en petits groupes, différents d'ailleurs, pour de nouveau essayer de faire avancer l'enquête par des questions. Et puis des temps seuls aussi, bien sûr, parce que l'enquête, c'est quand même, on l'a fait de soi à soi. Donc des temps seuls, des temps avec ce petit groupe, et puis des temps avec moi. Et en particulier, il y a un rendez-vous le soir à 18h où là, on va essayer vraiment, chaque personne va essayer d'aller au bout de l'endroit où elle en est. Si elle souhaite me poser une question, soit pour essayer de bien confirmer s'il n'y a pas de trou dans son enquête et si c'est bien suffisamment clair, ou alors parce qu'elle cherche une piste, qu'elle est un peu perdue, elle cherche une piste, et donc je lui ouvre une piste sur ce qui m'apparaît le plus capable de l'amener le plus loin possible, en sachant que je l'ai évoqué très vite tout à l'heure, mais il y a deux attitudes qui sont difficiles à discerner au début par le chercheur, je dirais par l'enquêteur. C'est quand c'est la tête qui cherche et quand c'est le cœur qui cherche. Et ça, donc, c'est quelque chose que j'insiste énormément pour leur apprendre comment on écoute le cœur plutôt que l'intelligence, parce que l'intelligence n'arrivera jamais à faire la paix en superficie, mais pas en profondeur. C'est le cœur qui fait la paix, c'est lui qui contient l'amour, on le sait bien. Et donc, c'est avec le cœur. Et j'aime bien développer l'idée qu'il y a ce qu'on a sur le cœur et ce qu'on a dans le cœur. ce qu'on a sur le cœur, c'est toutes nos vieilles douleurs, toutes nos vieilles rancœurs, tout notre passé douloureux avec lequel il faut nous apaiser pour être libre dans le présent. Si nous nous apaisons, c'est comme si on déposait un poids. Vous voyez, c'est comme si tout d'un coup, on avait déposé un énorme poids et tout d'un coup, on respirait tranquillement. On respirait vraiment. Et à ce moment-là, il y a ce qu'il y a dans le cœur qui vient. Et dans le cœur, ça va nous indiquer qu'est-ce qui nous importe dans la vie. Vous voyez, non plus qu'est-ce qui nous importe pour réussir dans la vie, mais qu'est-ce qui nous importe pour réussir notre vie. Et notre cœur va nous dire, voilà, ça t'importe, ça fais-le. Et je crois que ça, c'est très important. C'est qu'après avoir apaisé les douleurs qu'on a sur le cœur, on va rentrer dans ce qui est plus enthousiasmant, je dirais. C'est ce qui va porter notre vie, ce qu'on a dans le cœur et qui va s'épanouir, bien sûr.
En somme, vous apprenez à trouver les bonnes questions et c'est ensuite aux personnes de trouver les réponses.
Oui.
Et ça prendra le temps qu'il faut.
Vous avez entièrement raison. C'est très important d'insister là-dessus. C'est-à-dire que je ne pense pas que... Bien sûr, ce serait un exercice possible d'essayer de répondre à la personne et de lui dire de résoudre son enquête. À la limite, c'est même possible. Mais c'est absolument pas, jamais à faire. Je refuse systématiquement de faire l'enquête à la place des gens. Je veux bien leur donner une indication. Parce que si vous voulez, ils n'auront pas la fierté et ils n'auront pas la certitude. Si c'est eux qui ont fait l'enquête, si c'est eux qui ont trouvé, ils savent par où ils sont passés, ils ont la certitude et ça leur sert. Si même j'aperçois, moi, le résultat de leur enquête, parce que quelquefois je l'aperçois, si je leur dis, ils n'auront jamais la même certitude et ça ne leur servira pas, ou très peu. Et donc je fais très attention à les laisser totalement libres d'avancer comme ils veulent dans leur enquête et par où ils veulent. Mais c'est vrai que s'ils me demandent un conseil et que je vois qu'ils coincent à un endroit, ben je les aide, ce qui est bien normal.
Il faut penser à dépenser combien pour aller chez vous, par exemple?
Alors, c'est gratuit. C'est-à-dire que je n'ai jamais voulu faire payer donc, ce que nous faisons. Dans ce domaine-là, il y a des choses que chez nous qu'on paye, mais là, on ne paye pas. Donc, en fait, il y a juste l'hébergement qui est le tarif. Vous savez, nous, on est une association. On ne cherche pas à faire de l'argent. Donc, on fait vraiment les tarifs les plus faibles possibles. Pour donner une idée, la chambre fait 21 euros. Voilà. Donc, c'est quand même pas très onéreux.
C'est moins cher que l'hôtel.
Ouais. C'est moins cher que l'hôtel, nettement. Et donc, les séjours en quête, on les fait gratuitement. Après, la seule chose, c'est qu'il y a des gens, donc c'est les personnes qui viennent pour encadrer viennent d'un peu loin. Donc, on est en train de réfléchir, de dire, bah, écoutez, si vous voulez donner 3-4 sous pour les déplacements des gens qui viennent, voilà. Mais ce sera totalement libre, ce sera en plus invisible, parce que s'il y a un chapeau quelque part, je dirais, il sera déposé dans un endroit discret. Ce qui fait qu'on pourra donner, on ne pourra pas donner, ce n'est pas notre problème. Nous, on ne fait pas ça pour ça.
Est-ce que vous revoyez des personnes ? Peut-être à votre goût trop, parce que elles sont toujours encore en recherche ou elles n'arrivent pas à se découvrir.
Alors là, ça c'était surtout avant les séjours en quête. Et là, je peux pas les séjours en quête, je peux pas dire encore, je peux pas répondre à votre question sincèrement pour une raison simple, c'est que on les a mis en place il y a moins d'un an. Et donc, on ne peut pas juger sur la longueur. Par contre, j'ai vraiment le sentiment que les gens qui viennent sur quelques jours, ils font vraiment des très belles découvertes. Après, est-ce que ça tiendra? Je pense que oui. Est-ce qu'ils s'en serviront? Ben, j'espère bien. Je pense que oui, mais je ne peux pas répondre vraiment. Par contre, justement, la raison pour laquelle j'ai mis en place ces séjours en quête, c'est que certains autres moyens de compréhension de soi me paraissaient justement, de temps en temps, ne pas répondre à quelque chose de suffisamment utilisable. Et donc, le sentiment qu'en effet, ça s'épuisait, que ça n'avançait pas vraiment, que ça ne servait pas vraiment l'être, et qu'il y avait une espèce de travail qui se faisait, et puis que ça s'effondrait, je dirais. Et en fait, ça me fait penser cette question à quelque chose qui m'était apparu il y a déjà très longtemps, même avant ce que je viens de vous expliquer. C'est que quand j'ai fait une psychanalyse freudienne, moi, je suis arrivé à la fin de cette psychanalyse freudienne, et je me disais, bon, ben voilà, c'est bien, voilà, j'ai compris un certain nombre de choses. Et puis je me suis rendu compte, au bout de quelques mois, que l'effet s'effondrait, et que de plus en plus, je me retrouvais avec les mêmes travers, et en plus, comme je suis dans une famille où la psychanalyse freudienne s'était très développée, je voyais que beaucoup de gens qui s'arrêtaient régresser. Et je me suis rendu compte, c'est un peu comme dans le sport. Si vous le faites un sport, puis vous arrêtez un an, ben, bon, vous reprendrez plus vite que si vous n'en aviez pas fait. Mais il faut un entretien. Et donc je pense qu'il y a quelque chose qui doit se développer de plus précis pour que ça serve à l'être. Et après, c'est ce que je vous dis, il faut qu'il s'en serve. Et qu'il s'en serve dans sa vie quotidienne pour mieux vivre la vie quotidienne. Le but, c'est pas de comprendre son passé. Le but, c'est de mieux vivre dans la vie quotidienne. Mais pour mieux vivre dans la vie quotidienne, il faut comprendre son passé. Mais c'est pas le but. Vous voyez, le but n'est pas le passé, le but est le présent. Et l'avenir, bien sûr. Comme on disait tout à l'heure, ce qu'on a dans le cœur et qui va se développer, ce pourquoi nous sommes faits, ce que Paulo Coelho a appelé la légende personnelle.
Quand vous échangez avec des personnes qui viennent à vos ateliers ou des rencontres, est-ce que vous utilisez un vocabulaire qui soit d'une commune mesure dans la compréhension entre les deux personnes?
Alors oui, moi j'utilise vraiment un langage, j'essaye d'utiliser un langage hyper clair et où tout le monde peut comprendre. Et j'ai eu un très beau compliment comme ça un jour de mon psychanalyste avec qui j'avais fait donc toute cette psychanalyse freudienne et qui était venu parce que je faisais des choses sur le traitement de l'infertilité avec sa femme qui était elle aussi psychanalyste et donc on avait mis en place un suivi des couples infertiles et il m'avait entendu, il m'avait dit ah ben vous, avec vous au moins la psychologie c'est simple, tout le monde peut comprendre parce que souvent on lit le langage psychologique alors je dis pas que j'y arrive toujours hein, mais c'est vraiment mon but, c'est que tout le monde puisse comprendre parce que c'est pas compliqué finalement.
Ce que je veux dire c'est que il n'y a aucun code de mode ou d'idées passagères quoi dans les mentalités qui viennent polluer un peu ces conversations entre les personnes.
Je suis pas sûr de bien comprendre. Vous voulez dire
C'est-à-dire que quand j'abordais le sens vocable d'un mot dans sa compréhension, dans son sens, il peut y avoir des mots qui peuvent être ensuite aussi corrompus dans le sens. Et oui. Ça, les politiciens l'utilisent très bien, ah, de corrompre oui. Le vocabulaire pour égarer les gens.
Ah oui, tout à fait. Oui. Bah, écoutez, on essaie de s'en préserver. Hein. Après, je ne dis pas que c'est simple, parce que c'est vrai que le mot a des connotations différentes selon les époques, selon les personnes, selon la civilisation. Donc c'est vrai que c'est, le mot est quelque chose de...
Le
vécu personnel, bien évidemment. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Alors on essaye, après je ne dis pas qu'on réussit tout le temps, mais on essaye d'avoir quelque chose qui soit clair et compréhensible et qui n'ait pas de sous-entendu ou qui ne manipule pas les mots.
Alors, pour le chemin de l'aube, vous annonceriez d'autres événements à venir, hormis ces jours enquête et cette projection de film ?
Eh bien, écoutez, oui, il y a un sujet que j'avais déjà évoqué, mais je crois qu'il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est quelque chose qui me passionne aussi beaucoup, c'est l'évolution de la vie sur Terre, donc qu'on appelle la phylogénèse, avec, il y a 4,6 milliards d'années, la création de la Terre, et puis la création des briques de la vie par le monde minéral, et puis la première cellule, la protocellule, qu'on appelle protobionte, et puis de cette cellule, d'un organisme plus compliqué, et donc en passant par le minéral, végétal, animal et l'homme, donc l'anthropologie, on peut comprendre comme ça notre propre histoire. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait dans les enquêtes, on va aller voir notre histoire personnelle depuis notre naissance, on va dire en gros. Tandis que là, on va voir notre histoire beaucoup plus élevée, beaucoup plus longue. C'est l'histoire de nos êtres depuis l'origine. Vous savez, les astrophysiciens disent « nous sommes poussière d'étoiles ». Et ce n'est pas une plaisanterie, c'est que c'est une réalité. La Terre a été concentration de poussière et cette poussière a créé toute la suite, dont nous. Et donc, c'est de notre histoire dont il s'agit, sur un plan beaucoup plus élevé, beaucoup plus large, je dirais. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et donc, nous faisons régulièrement des week-ends sur l'évolution. Donc, avec en plus, comme je vous disais, on fait ça avec une personne qui est de Die, qui est passionnée avec moi de ça. Donc, on anime un week-end ensemble prochainement. Je ne sais pas si je vous ai laissé la date. Si je la retrouve, je vous dirai. Et voilà, oui, donc ce week-end évolution, c'est le 12 et 13 novembre. Voilà. Et puis, il y a bien sûr mes activités premières, je dirais, sur la naissance, donc sur le désir d'enfant, sur la préparation à l'accouchement, la parentalité, tout ça. Donc, on le développe avec l'association des drôles de mamans une fois tous les mois et demi à peu près. Et donc, le prochain week-end, c'est le 5 et 6 novembre. Et le suivant, c'est le 10 et 11 décembre. Donc, ça, c'est vraiment... Mes origines, je veux dire, c'est là où j'ai vraiment commencé à développer toute l'approche qui maintenant s'est élargie avec tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui.
Eh bien, et puis nous allons peut-être aussi donner les coordonnées du centre de l'Aube. Et il y a pour ça plusieurs adresses internet. Il y a déjà Hugues Rennes en un seul mot .com. Ça
c'est mon blog, ça oui, c'est voilà. Le blog où je, avec aussi là, une chaîne YouTube qui est associée, mais que vous trouvez sur le.
Et qui concerne les séjours enquête en particulier.
Bien sûr.
Voilà. Et puis ensuite, le chemin de l'aube avec l'adresse qui est www.aube-association.com. On peut indiquer aussi un numéro de téléphone pour des personnes qui voudraient, ou même un mail pour
oui.
Une personne qui voudrait écrire.
Alors, l'adresse, le téléphone, c'est 04 75 40 03 24. Donc, 04 75 40 03 24. Et l'adresse mail du centre de l'Aube, c'est... je ne l'ai pas.
Elle sera forcément indiquée sur le site internet.
Oui.
Hein, par
oui,
contact.
Tout à fait. Oui, vous allez sur le site, elle sera marquée, il y a le contact.
Hugues, merci d'être venu nous parler de vos activités et puis je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup. Merci.
Interview.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.